Les deux royaumes. Nous sourions. Nous sourions dans un cimetière coloré et plein de vie. Les morts, qui ne captent rien de ce qui nous importe, inventent des jeux microscopiques en circulation dans les herbes hautes et rigolent à grands bruits. Le temps siffle dans le vacarme. On s'accroche à la lumière, conscient d'avoir un pied déjà sur l'autre versant. On veille à ne pas partir plus vite que prévu. Difficile de mourir de son vivant, mourir avant d'être mort, mourir en sachant qu'il nous faut vivre encore un peu avant mourir pour de bon. On s'y prépare, on cultive le détachement. Une fleur délicate apparue sur le tard, fragile. On chante sur le balcon. On chante à tous les vents d'un air volontairement joyeux. Au-dessous de nous flotte une banderole sur laquelle il est écrit « Cet oiseau jamais n'habite que le cimetière qu'il habite. » Je suis au balcon de ma vie. Face au soleil couchant. Un soleil qui n'en finit pas. J'ai grimpé tous les étages. J'ai posé un sourire à chaque fenêtre. Il est temps maintenant de rendre les clés. Vu mon âge avancé, il se peut que je dispose de quelques vies supplémentaires, mais dans un coffre qui s'éloigne et barré dont j'ai perdu la clé. 227. Je vis dans un coffre parallélépipédique dont j'ai perdu la clé. De toute manière, il ne s'ouvrait pas de l'intérieur. Le ciel constitue une bonne part de 5 de ses 6 faces et je ne parviens jamais à en atteindre les parois. À toute heure, une cloche sonne midi, l'heure du repas, pour nous rappeler que nous sommes tous morts. 211. Elle disait, quand tu dis que tu m'aimes, tu monologues. Et, disant cela, elle monologuait. Elle traversait je ne sais combien de vies en couches successives avec simplement dans l'idée de répéter indéfiniment cette scène. On ne savait pas grand-chose de son parcours ou de ses liens avec le narrateur barré, l'animal dominant. Elle répétait une scène où elle n'en finissait jamais de regarder au lointain. C'était probablement la femme de ma vie, mais je ne l'ai su qu'après. Souvent, je me demande si le mort barré, celui qui me parle en dedans, ne serait pas une partie de moi-même. J'ai emprunté ce corps pour dire ce que j'ai à dire. J'ai emprunté ce corps pour vous dire que l'important dans la parole n'est pas d'où elle vient ni ce qu'elle raconte. J'empruntais ce corps pour vous dire que tout au fond de la parole, il y a aussi un corps, mais informe, à raconter l'informel et qu'à tourner autour de l'informe et l'informel et parler et descendre et revenir en surface avec le corps d'emprunt. Ce que j'ai trouvé barré, déterré est encore dans la gorge. Une gorge éclairée, livrée à tous les vents, plus bavarde que tout ce qui me sortira jamais par la bouche. Les morts ont cet avantage sur les vivants de pouvoir parler par toutes les parties du corps. 181. Les morts ont cet avantage sur les vivants de ne rien savoir de la répétition. Tout est toujours neuf, sans notion d'oubli, sans mémoire, sans inscription. 179. Les morts ont pour autre avantage de choisir leur langue. 173. Un jour, devant une feuille blanche, on mesure la vie, ou le peu de vie que l'on a encore devant soi. Cela se ramène à une surface dont rien ne prouve qu'elle ait des bords bien réels. 1967. L'acteur qui a la chance d'être vivant aura la bonté de lire ce qu'il doit lire, barré, dire ce qu'il doit dire avec le sentiment toujours de tenir l'équilibre et cela dans le respect absolu des vivants et des morts qui l'écoutent. Car si l'acteur est bien vivant, aucune information n'est donnée sur les univers traversés par sa parole. Tous les acteurs de l'autre bord écoutent l'acteur vivant. C'est ainsi qu'il faut toujours appliquer un gros coefficient multiplicateur sur le public apparent. Ce gonflement systématique du public a pour effet positif de booster le moral de l'acteur vivant pour peu qu'il communique avec les morts. L'acteur vivant, on le sait, fragile et timide. Ils le sont tous. Peut-être même est-ce une caractéristique du vivant. Quant aux acteurs morts, ils applaudissent de 36 000 mains à la fois, souriants, convaincus, positifs, même si rien ne se passe et même s'ils ne captent pas grand-chose de ce qui pourrait nous éclairer le regard. Les moustiques du royaume des morts sont les moustiques morts du royaume des vivants. Les choses simples, parfois, il faut les dire. Chose importante, on peut la dire n'importe quand, il faut juste ne pas oublier de la dire avant mourir. Un certain nombre de choses doivent impérativement être dite tant qu'on est vivant, car ensuite elle revêtirait un sens différent. On pourrait trouver sous les deux propositions précédentes une forme de contradiction. Car toutes les contradictions demeurent possibles, même si dérangeantes, tant qu'on est vivant. Elles ne posent plus aucun problème dans la mort, à tel point qu'elles perdent en partie leur statut d'objet de pensée pour venir se coller doucement au statut d'objet matériel. L'acte de chirurgie pour faire d'un moustique mort un moustique vivant du royaume des morts relève d'une technologie avancée des royaumes incertains. Parfois nous arrive le bruit d'un avion par un tunnel de lumière. Et c'est là qu'il nous reste 5 secondes pour tenter d'exister un siècle. 103. Un homme qui m'aimait écrivait pour moi de longs monologues, murmurait une femme barrée, figure féminine, dont nul, dont moi, ne savait quel était son royaume. 101. La femme de mes rêves a tricoté son royaume à la croisée des deux autres. Elle chante de sorte à se faire entendre de tous les jardins barrés, balcons suspendus. Mon chant, son chant, porte au-delà de l'ultime promontoire sur lequel je me tiens depuis 3 jours barrés, 3 siècles barrés, une éternité, au spectacle d'un soleil couchant barré, immense et rouge, barré, arrêté. Je me suis fait un petit cimetière au fond des yeux. Il y a ma famille, un vieux chien que nous avions, des bruits de vaisselle, des avions en papier porteurs de messages destinés à ne pas être lus, des fleurs lumineuses barrées, introuvables barrées, fanées barrées, incolores barrées, ingérables, des écritures latines joliment inexpliquées. Toutes les femmes que j'ai aimées sont venues avec moi. Une par une. Prenant leur temps. Elles sont venues avec tous les hommes qu'elles ont aimés. Un par un. Une sorte de marché de Noël. Dans lequel compliqué de bâtir un ordre. Une logique. Chacun circule dans les allées comme il pense devoir le faire. Nous parlons peu, mais quand nous parlons, cela se fait sur le mode de la confidence, et nous parlons de tout sauf d'amour. Pourquoi parlons-nous si peu des objets ? Dit une voix d'un côté, tandis que de l'autre, amusée, faisant presque l'idiote, une voix répond : parce que nous les habitons. Il existe des techniques pour détecter les vivants. Je veux dire parmi les morts. Ou encore les morts parmi les vivants. Sauf que tous les détecteurs sont obsolètes, passés de mode. Aucune mise à jour disponible. Chacun cherche tout le monde sous tous ses états. Beaucoup d'agitation. Et au final, tout se fait dans une confusion sans nom. La pieuvre ne transmet rien à ses petits qui éclosent sans la connaître. Le département des pieuvres, au royaume des morts, est tapissé de minuscules notices. M'entendrez-vous encore quand je ne parlerai plus ? Bégayait un indéterminé sur le seuil du département des pieuvres. Il tremblait si fort qu'il faisait éclore les œufs. Il pleurait comme s'il n'avait jamais rien vécu d'autre qu'une interminable noyade. Un indécis de première classe murmurait « Me comprendrez-vous encore quand je ne dirai plus rien ?» Il attendait sur le seuil d'un département indéterminé, barré, en prenant des pauses indéterminées, barré, il guettait sa mère dont il n'avait jamais obtenu la moindre attention. Certains morts ne savent pas, non, qu'ils sont morts. Ils continuent de parler et sourire aux vivants qui, soit ne les voient pas, soit font comme s'ils ne les voyaient pas. Personne ne sait trop ce qu'il voit, ou s'il est vu, et s'il convient de faire un effort, et tout perdure dans une indécrottable quiétude. Certains vivants ne savent pas qu'ils sont morts. Ils continuent de parler aux vivants et aux morts, sans réel souci d'un interlocuteur et sans réelle connexion avec une quelconque notion de quiétude. Les bouquets que l'on s'offre barrés dans la mort sont comme à l'envers. Les morts à la guerre sont indéfiniment en guerre. Ils font de la figuration sans voir passer les siècles. L'un qui meurt toutes les 10 minutes tient un drapeau sur lequel il est écrit « Nous partageons nos champs de bataille !» que j'ai aimé un beau matin se regroupe, immobile, vêtements bigarrés, et murmure doucement pour décider comment se ranger en file indienne barrée devant la vitrine d'une boulangerie. Je participe au débat, mais la rue dans laquelle je suis n'a pas de boulangerie. Dans la vie sont encore boulangers dans la mort. Cela vaut pour toutes les professions, toutes les confessions, tous les oiseaux de toutes les tailles et de tous les plumages, avec toutes leurs professions et confessions d'oiseaux. L'huître, l'huître dans la vie, a déjà tout fait dans la mort. C'est dit par un boulanger qui n'aurait plus toute sa boulangerie. Il a pour projet d'écrire un livre, mais réalise vite que la place est déjà prise. L'huître collectionne les contradicteurs. Sauf qu'elle n'est jamais dans la bousculade, juste l'acceptation, une forme d'abandon. Rien de plus doux que le regard d'une huître. Dégustateur barré, consommateur barré, observateur dans la mort, se promènent avec chacun leur collier d'huîtres, fort de tous ces regards qu'ils distribuent sans compter. Les centaines de milliers d'animaux de la création participent, certains plus que d'autres, les petits comme les gros seront les petits et les petits les gros du royaume opposé. La mort me téléphone parfois pour savoir ce qu'il en est dans ma vie. Je réponds comme je répondrais à ma mère, mais c'est barré, qui n'avait pas le téléphone, mais c'est barré, qui n'était pas une huître, mais c'est barré. Je réponds comme le coquillage répond à la vague. Matins et soirs et souvent dans la journée et plus sévèrement la nuit pour savoir ce qu'il en sera dans la mort. Elle sait que je n'ai pas de réponse. Et pourtant, tous les jours, elle recommence. Au fil des années, je crois que mon absence de réponse barré pieuvre barré motivation à répondre finit par tenir lieu de réponse barré pieuvre. Ma pieuvre et moi, nous ne supportons plus d'avoir ma vie au téléphone. J'ai adopté une pieuvre. Elle est en pension de mon vivant. Elle me fait régulièrement la parole. Elle ne réfléchit plus avant de me confier ses petits. 13. Je me téléphone régulièrement pour savoir où j'en suis. Ça ne répond pas. L'écho est tellement fort. Les circuits téléphoniques entre les deux royaumes sont comme encombrés. Ma dulcinée affirme qu'il serait plus simple de s'écrire. Sept. J'écris à ma chérie. Elle n'est plus. Elle répond avec des mots qui n'ont jamais été. Nous passons de bons moments. Ne comptabilisons rien. Certains en mission spéciale, de nombreuses équipes en permanence tournent en navigation entre les deux royaumes. Certains ont inventé la chaise en plastique blanc, un sujet qui revient, mais sans en inventer la notice. On les voit tourner indéfiniment. Ils finiront bien par inventer quelque chose d'utile barré, de repérable barré, de fondamental. Il arrive assez couramment que les inventeurs inventent ce qu'ils ne s'inventent pas. Systématiquement, ils oublient les notices. Les services gestionnaires tentent de compenser, mais tout n'en reste pas moins bancal. Que ce qui n'a pas déjà été dit. Un. Toute une vie à l'avenant. Disait une femme avec laquelle j'en aurais bien vécu une deuxième, mais j'aurais auparavant modifié certains paramètres. Et modifiant ces paramètres, la proposition « toute une vie à l'avenant » n'aurait peut-être pas eu lieu d'être, et du coup je ne l'aurais pas rencontré, cette femme avec laquelle je n'aurais pas été tenté d'en vivre une deuxième. Zéro. au jour du départ, il est important de penser la valise. Même s'il faudra la laisser sur place. Car le monde est une valise qu'on laissera, qu'on le veuille ou non, derrière soi.